on va parler de miracle peut-être en économie. C'est d'ailleurs à la une de La Croix, un budget américain sous le signe des dépenses. C'est également, mais ça c'est moins surprenant, à la une du Financial Times. Les bourses ont lourdement chuté la semaine dernière, notamment le Dow Jones. Et pour en parler, je suis en compagnie de Patrick Artus. Bonjour, vous êtes chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis, auteur avec Marie-Paul Virard de La folie des banques centrales, pourquoi la prochaine crise sera pire. Est-ce que les miracles, ça existe en économie, les arbres qui montent au ciel, par exemple, à la bourse, pour dire que la bourse peut ne jamais s'arrêter de monter, Patrick Artus?
Ce qui est curieux, c'est que certains le croient. Vous rappelez qu'en 2007, aux États-Unis, on croyait que les prix de l'immobilier pouvaient monter jusqu'à la fin des temps, que les ménages américains surendettés rembourseraient leurs dettes. Et finalement, tout ceci s'est effondré. Et depuis maintenant un an, et c'est surtout aux États-Unis qu'on voit ça d'ailleurs, hein, aux États-Unis, on voit que il y a un consensus assez fort. Et vous parliez du budget de Trump. Regardez les taux de croissance que prévoit Trump pour fabriquer son budget. Donc que la croissance américaine va rester au-dessus de 3% par an jusqu'à la fin des temps, que les résultats des entreprises vont continuer d'augmenter de plus de 10% par an, et donc que le marché des actions va continuer à monter sans interruption continuellement. Donc le monde anglo-saxon de la finance a une tendance assez lourde à croire au miracle.
Mais alors, il le croit ou alors il pense que l'intérêt, c'est d'être le premier à descendre du train quand les choses commencent à se gâter?
Alors, c'est dans l'autre sens. Alors, il y a ceux qui y croient, une espèce de naïveté
ce qu'on appelle les idiots utiles l'inflation des actifs.
Et puis, pour les autres, c'est dans l'autre sens. Parce que c'est celui qui descend du train le premier qui meurt. Et on voit plein d'investisseurs, par exemple, dans les actions aux États-Unis, qui disent « oui, je suis très inquiet », et qui disaient, parce que depuis une semaine ou deux semaines, vous le rappeliez, les choses ont un peu changé, mais qui disaient avant « je suis très inquiet, ce marché va se corriger ». Mais si je suis le premier à sortir alors que le marché continue à monter, les autres vont me prendre mes clients. Donc ça, c'est la logique de bulle, si vous voulez. On croit que le plus malin, c'est celui qui sort le premier, effectivement, mais en réalité, il y a une énorme incitation à ne pas sortir, parce que si le marché continue à monter alors que vous êtes sorti, vous êtes mort. Et c'est comme ça qu'on fabrique des bulles.
Alors, la semaine dernière, la bourse aux États-Unis a perdu jusqu'à 5% par jour. C'est un crack ?
Non, c'est pas un crack. Il faut se poser d'ailleurs quelques questions. D'abord, ça vient d'où ? Curieusement, ça vient d'une mauvaise cause. Puisque la vraie raison pour laquelle il faut qu'il y ait une correction des marchés boursiers, c'est que la croissance des États-Unis va ralentir. Quoi que dise Donald Trump, on est au plein emploi aux États-Unis, hein, ou tout près du plein emploi. Au plein emploi, on peut pas avoir 3% de croissance. Donc la croissance américaine va ralentir, les résultats des entreprises vont croître beaucoup moins que ce qui est attendu. Et la bonne raison pour une correction boursière, ça aurait été... C'est quelque chose qui est assez bizarre de voir que l'administration Trump ne le comprend pas, que quand tous les Américains employables ont un emploi, forcément on a moins de croissance que quand le taux de chômage diminue, quoi. Qui est un truc assez basique, mais qui a pas l'air d'être compris par l'administration. Mais la raison pour laquelle la bourse a corrigé n'est pas celle-là. La bourse a corrigé parce qu'elle croit que l'inflation revient. Ce qui tire d'ailleurs des ficelles assez profondes, hein, qui sont, par exemple, que se passe-t-il sur le marché du travail ? Comment comprendre que dans des pays où on est extraordinairement proche du plein emploi, les salaires n'accélèrent pas ? En réalité, aux États-Unis, les salaires accélèrent extrêmement peu ou pas du tout. Regardez l'Europe, regardez le Japon. Donc, quel est ce nouveau fonctionnement du marché du travail qui fait que même lorsqu'on arrive au plein emploi, les salaires continuent à ne pas augmenter plus vite ? Donc, il n'y a pas d'inflation. Et ça change totalement le fonctionnement de nos économies. Nos économies étaient rythmées par le retour de l'inflation quand on arrivait au plein emploi. Ceci a l'air d'avoir disparu. Et bien sûr, le marché n'y croyant pas, il croit que l'inflation revient, donc il croit que les taux d'intérêt vont monter, donc il croit que la valeur des actions va baisser.
Voilà, écoutez, moi je ne sais pas si La Croix croit au miracle, mais en tout cas, lorsque ce journal évoque ce matin le budget américain sous le signe des dépenses, La Croix est d'ailleurs d'accord avec The Economist, puisque jeudi dernier, The Economist parlait de l'économie américaine et des réformes que mène Donald Trump. Si on les résume en deux mots, d'une part, une fiscalité amoindrie pour les entreprises et pour les très riches, et ensuite des dépenses avec des grands travaux. Est-ce que ça, par exemple, ça ne pourrait pas être de nature à soutenir la croissance plus longtemps que vous ne le dites, Patrick Artus?
L'obstacle à la croissance aux États-Unis, c'est pas la demande. La demande est forte. L'obstacle à la croissance aux États-Unis et d'ailleurs curieusement aussi en Europe et aussi curieusement en France, alors qu'on a plus de 9% de chômage, c'est les difficultés d'embauche des entreprises. Les entreprises américaines, mais les françaises aussi, nous disent, et c'est bien documenté, il y a plein d'enquêtes, etc., nous n'arrivons plus à embaucher. Et donc, même si nous avons de la demande, nous ne pouvons pas embaucher, donc nous ne pouvons pas satisfaire la demande. Si vous faites, quand on est dans cette situation, un programme de relance budgétaire avec effectivement moins d'impôts, plus de dépenses militaires, plus de dépenses en infrastructures, qui d'ailleurs peut être intelligent, la réforme fiscale de Trump n'est pas mauvaise, les infrastructures, les États-Unis en ont besoin. Simplement, vous faites une grosse. Ces réformes fiscales ne sont pas financées, donc vous faites du déficit public. Et ce déficit public, on le voit déjà, qu'est-ce qu'il fabrique ? Il fabrique du déficit extérieur des États-Unis, puisque comme on ne peut pas produire plus aux États-Unis, on importe. Les importations des États-Unis sont en train d'augmenter à toute allure. Et donc, du point de vue du timing, cette réforme, à nouveau, dont on peut dire que certaines composantes sont intelligentes. Il faut construire des ponts, des routes, des aéroports aux États-Unis, ça c'est tout à fait clair. Mais du point de vue du timing, c'est assez terrifiant de faire de la stimulation budgétaire, du keynésianisme, alors qu'on est au plein emploi.
Oui, mais alors justement, ce qui est étonnant, c'est que, bon, en ce qui concerne Donald Trump, on peut dire que les commentaires étaient tous négatifs, jusqu'à cette couverture de The Economist jeudi dernier, qui disait que la réforme économique était plutôt bonne, pas tellement pour les grands travaux, parce que The Economist n'est pas favorable à la relance keynésienne, mais tout simplement parce que ils expliquaient, donc dans les colonnes de ce magazine, que la réforme fiscale pouvait apporter effectivement un regain de croissance. Est-ce que vraiment vous vous dites que celle-ci est bloquée par l'incapacité d'embaucher aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, avec par exemple les gains de productivité liés à la révolution technologique, la possibilité de croître encore ?
Mais, vous direz, vous posez une question qui est très importante. Il y a plein de travaux d'économistes depuis longtemps qui essaient d'éclaircir ce mystère qui est que les nouvelles technologies, le digital, ne fabriquent pas de gains de productivité. Alors on commence à comprendre pourquoi. On voit que dans chaque secteur d'activité, en fait, il y a un tout petit nombre de gagnants et un très grand nombre de perdants des nouvelles technologies. Et que le fait qu'il y ait un très grand nombre de perdants conduit à ce qu'au total, il n'y ait pas davantage de gains de productivité. Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il faut totalement distinguer, et je me répète un peu, mais c'est très important si on veut comprendre ça, le fond de la réforme de la macroéconomie. On peut faire une réforme fiscale intelligente sans ouvrir les déficits publics. Donc si on considère que les entreprises américaines payaient trop d'impôts, on peut baisser les impôts des entreprises américaines et par ailleurs, on peut baisser des subventions, des dépenses pour ne pas augmenter le déficit du budget. Donc d'un point de vue de la microéconomie des États-Unis, ce qui est fait sur les infrastructures, c'est pas de la relance keynésienne, c'est juste qu'on peut plus transporter les marchandises aux États-Unis et on peut plus prendre l'avion parce que tout est saturé. Donc sur la microéconomie, ces réformes sont bonnes, hein, les impôts des entreprises étaient trop élevés, les entreprises américaines gardent 3000 milliards de dollars en cash dans le du monde qui sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est absolument terrifiant. Mais le problème, c'est la macroéconomie qui fabrique un déficit public qui est absolument inutile et dangereux alors qu'on est au plein emploi.
Bon, il y a quand même la réforme fiscale pour les ménages qui, elle, va contribuer à enrichir les plus riches de manière assez décomplexée. Lorsque celle-ci a été présentée, elle va contribuer à renforcer les inégalités. Est-ce que ça vous paraît être menaçant ou bien est-ce le signe que Marx avait raison et que la classe des possédants a remporté la lutte des classes ?
Je crois qu'il y a un assez grand consensus chez les économistes pour réfléchir en tout cas au danger des inégalités et en particulier à l'idée suivante qui est assez de bon sens mais qui me paraît importante. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle ? C'est une situation où il apparaît une nouvelle technologie qui fabrique de nouveaux biens et services qui trouve un grand marché. La voiture entre les deux guerres aux États-Unis dans les années 50 en Europe. La classe moyenne se met à acheter des voitures, donc ça devient un bien de grande consommation et qui crée beaucoup d'emplois, etc. Si vous appauvrissez la classe moyenne, vous détruisez ce grand marché. Et donc vous détruisez en réalité la capacité à avoir des innovations qui se diffusent considérablement. Donc c'est une très grave erreur d'appauvrir la classe moyenne, du point de vue de la croissance. Hein. Donc je pense que ce qui se fait aux États-Unis... Alors depuis 2-3 ans, il y a quelques petits signes qu'il y a une amélioration, puisque les plus bas salaires aux États-Unis commencent à augmenter un peu plus vite, parce qu'il y a des tensions sur le marché du travail. Hein. Mais ces 20 ans de dynamique américaine où on a concentré les revenus et le patrimoine sur les quelques pourcents d'Américains les plus riches, je ne parle pas ici du tout d'un point de vue moral ou éthique, hein, je parle d'un point de vue de l'économie, c'est une mauvaise idée, puisque vous détruisez la capacité de vendre très largement à beaucoup de gens de nouveaux biens ou de nouveaux services.
Hein. Mais justement, si vous vous situer du côté de l'inflation des actifs. L'inflation des actifs, c'est un terme qui désigne finalement la création de prix extrêmement élevés dans certains domaines, par exemple l'immobilier. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'économie américaine est en train de se réorienter vers un marché favorable aux très riches, qui serait en quelque sorte dirigé vers eux, avec une société, comme on dit, en sablier, c'est-à-dire beaucoup de pauvres, des très riches et plus de classe moyenne?
Oui, c'est vrai, et c'est tout à fait clair. C'est ce que les économistes appellent la polarisation, hein, en disant le marché du travail va vers les deux bouts. Alors, dans la polarisation, il y a une partie qui est subie, qui n'est pas liée à de mauvaise politique, qui est ce qui vient de... Par exemple, tous les travaux qu'on a sur l'intelligence artificielle et les robots nous expliquent que ça fabrique de la polarisation. Il y a des travaux très intéressants, par exemple, qui ont été faits au MIT récemment, qui montrent que quand on robotise, on détruit des emplois intermédiaires dans l'industrie ou dans les services aux entreprises, et on crée des emplois de services aux particuliers, parce que les robots fabriquent du revenu qui est consommé sur des services de base. Et donc, il y a une partie de cette... tendance vers un marché du travail qui va aux deux extrêmes, qui est due à la technologique. Et puis il y a l'autre partie, je pense, qui est due à la politique monétaire. C'est-à-dire que la politique monétaire américaine, et d'ailleurs pas que américaine, est une politique qui a volontairement, depuis 25 ans maintenant, fabriqué la hausse des prix des actifs. Quand on maintient pendant de très très longues périodes de temps des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les taux de croissance, on fabrique l'inflation des actions de l'immobilier. Donc c'est une création de la politique monétaire. Et évidemment, l'inflation patrimoniale, qui a remplacer l'inflation des biens. Tout le monde croit qu'aujourd'hui, les politiques monétaires extraordinairement expansionnistes vont créer de l'inflation. La réponse est non. Ce qu'on achète avec la monnaie, c'est des actifs. Hein. C'est des actions, c'est de l'immobilier, c'est de l'art contemporain. Enfin, parce que l'inflation, elle est partout. Hein. Cette inflation patrimoniale, elle fabrique des inégalités de patrimoine qui sont encore bien plus gigantesques que les inégalités de revenus. Mais là, je pense que, à nouveau, il y a toute une partie qui est la plus gênante, parce qu'on pourrait avoir des politiques monétaires plus raisonnables. Hein. Mais ce qui vient de la technologie, ce qui fait que les emplois répétitifs intermédiaires disparaissent au profit d'emplois sophistiqués, au profit d'emplois de services de base, ceci n'est pas lié à une mauvaise politique, c'est lié au développement technologique qui fabrique cette polarisation.
Alors, donc, on a une situation qui est aujourd'hui une situation assez compliquée parce que la société américaine est quand même une société aujourd'hui qui est très inégalitaire. Et puis, on a un phénomène qui est un phénomène qui mérite d'être expliqué. On a le rôle des banques centrales. Ce rôle des banques centrales, il est incriminé dans la chute des bourses. Je pense qu'il n'est pas inutile tout d'abord que vous nous expliquiez, Patrick Artus, ce qu'est une banque centrale. À quoi ça sert ?
Ça a changé de rôle au cours du temps. Depuis le début des années 80, mais c'est une période historique finalement courte, les banques centrales ont été conçues avec comme objectif d'empêcher le retour de l'inflation. Il faut voir que ce n'est pas leur rôle historique ni leur rôle habituel dans l'histoire. Le rôle historique des banques centrales, c'était plutôt de générer une quantité convenable de liquidité pour que l'économie fonctionne bien, ni avec pas assez de liquidité, ni avec trop de liquidité. Mais depuis le début des années 80 et après les chocs pétroliers, on a décidé que le travail des banques centrales devait constituer à maîtriser l'inflation. Je me demande si ça n'a pas été, dès le début, une erreur.
Pourquoi ?
Puisque... je pense que l'inflation dépend en réalité assez peu de la politique monétaire. Que l'inflation, elle dépend essentiellement de ce qui se passe sur le marché du travail, de ce qui se passe sur les marchés de matières premières. Et donc, on a eu une première période dans les années 80 et peut-être au début des années 90 où spontanément, l'inflation voulait être supérieure aux objectifs des banques centrales, qui sont en général de 2% dans les grands pays. Et donc, les banques centrales ont mené des politiques structurellement restrictives. Et rappelez-vous que d'ailleurs, encore aujourd'hui, on entend dire parfois que les banques centrales font de l'austérité, mais c'est une vieille histoire. Mais c'était vrai à cette époque-là. Et puis depuis la seconde moitié des années 90, les marchés du travail étant flexibilisés, on a une inflation qui est plutôt structurellement en dessous de l'endroit où les banques centrales voudraient qu'elle soit, et c'est tout à fait le cas depuis 10 ans. Et là, elles mènent des politiques monétaires ultra-expansionnistes. Donc en fait, on est passé d'un biais d'austérité dans les politiques monétaires à un biais ultra-expansionniste où on inonde le monde de liquidités, parce qu'en réalité, l'inflation va à peu près où elle veut aller, et que les banques centrales n'y peuvent pas grand-chose, mais comme on leur a dit « votre travail, c'est d'amener l'inflation à 2 %, elles se sentent obligées de le faire. Et donc, je pense qu'on a eu de grands désordres, en réalité, depuis qu'on a décidé que les banques centrales surveillaient l'inflation.
Pourquoi l'inflation serait-elle aujourd'hui un danger, Patrick Artus?
D'abord, il y a quand même une inflation très forte. Bon, regardez ce qui s'est passé dans les pays d'Amérique latine, c'est pas une bonne idée.
Très très loin, puisque ce que vous évoquez là, c'est un taux d'inflation à 2 voire 3 chiffres.
Il y a quelques arguments. Vous savez qu'il y a une chose assez bizarre, c'est qu'on a du mal à avoir des taux d'intérêt négatifs. On a les taux d'intérêt négatifs. Alors, la raison est assez stupide, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle les dépôts bancaires et les billets qui rapportent
Il faut expliquer, parce que c'est compliqué à conceptualiser ce qu'est un taux d'intérêt négatif.
Un taux d'intérêt négatif, c'est ce qui vous arrive si vous achetez de la dette de l'État allemand à 2 % aujourd'hui, le taux d'intérêt est négatif.
Donc le taux d'intérêt réel.
Nominal. Donc, on va vous rembourser moins que ce que vous avez prêté à l'État allemand.
Ce qui est quand même une situation un peu embarrassante.
Oui, mais c'est embarrassant pourquoi ? C'est embarrassant parce que par ailleurs, vous pouvez donner votre argent à une banque qui va vous rémunérer à 0. Donc là, l'impossibilité des taux d'intérêt négatifs, il est dû à l'existence d'actifs financiers qui rapportent 0 %. Mais bon, il y en a. Il y a les billets, par exemple. Et donc, comme on ne peut pas avoir de taux d'intérêt négatif, on a intérêt en réalité à ce que, dans les périodes de croissance économique, les taux d'intérêt soient assez élevés. Ce qui permet de les baisser beaucoup quand ça va mal. Si on a très peu d'inflation, dans les périodes de croissance économique, les taux d'intérêt vont rester bas. Et donc, quand ça va mal, on ne pourra pas beaucoup les baisser. Donc, on ne pourra pas beaucoup soutenir l'économie dans les récessions. Donc, il existe quand même des arguments assez sérieux pour souhaiter une inflation pas trop faible.
C'est-à-dire que, pour le dire de manière assez brutale, l'une des questions qui se pose est le fait que de grandes fortunes ont été constituées, c'est cela d'ailleurs qu'on appelle les inégalités de patrimoine. Ces gens-là cherchent à placer leur argent et les perspectives de gains ne sont pas nombreuses. Il y a de plus en plus de difficultés à être rémunérés par les marchés, ce qui provoque un certain nombre d'inflations d'actifs pour des gens très riches qui cherchent à trouver des placements.
Quand les prix de l'immobilier montent, ça crée une inégalité un peu différente, qui est différente. C'est que ceux qui ont déjà acheté un logement profitent de la hausse des prix et ceux qui essaient d'en acheter un en souffrent. Donc c'est des inégalités un peu partout qui sont parfois un peu plus compliquées que simplement des inégalités de niveau de revenu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il va falloir aujourd'hui commencer une réflexion de fond sur ce que nous voulons que les banques centrales fassent. Et on voit que cette réflexion, elle a l'air d'avoir vraiment commencé aux États-Unis. La Réserve fédérale se pose beaucoup de questions sur ses objectifs et on a du mal à croire qu'elle commence vraiment en Europe.
On va continuer à l'évoquer vers 8h20. On va voir avec vous, Patrick Artus, quelle est la situation économique en France avec énormément de licenciements dans la distribution. Pour Carrefour, on l'a appris. Pour Brico Dépôt, on le voit aussi. Qu'est-ce que cela augure pour l'avenir? Est-ce qu'on va avoir une masse de licenciements liés à la facilité apportée par les nouvelles règles en matière de licenciement? Avec quelles conséquences pour l'économie? On se retrouve aux environs de 8h20.